Ce matin, nous poursuivons notre série intitulée « Comment être saisi par le Saint-Esprit en 2009 ». Jésus lui-même disait au sujet de la personne du Saint-Esprit « C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. » Est-ce qu'on réalise ce matin que c'est la vérité? Les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Est-ce qu'on réalise ce matin que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui donne la vie? Est-ce qu'on réalise qu'au début de la création, avant même que le premier homme puisse prendre sa première respiration, ça a été l'Esprit de Dieu qui lui a donné la vie? Là où est l'Esprit, là est la vie. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Là où est l'Esprit, là est la vie de Dieu. Amen. Luc, chapitre 17, verset 20 et 21, on a vu la semaine dernière, alors que les pharisiens demandaient à Jésus, « Où est le royaume de Dieu? C'est quand que le royaume de Dieu va venir? Qu'est-ce qui se passe? » etc. Et Jésus a répondu, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, dit Jésus, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et Jésus est en train de parler aux pharisiens et dire aux pharisiens qu'eux autres cherchaient le royaume de Dieu. Ils se demandaient quand ça viendrait. Et Jésus leur répond, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, à être spectaculaire. » Même Jésus va leur dire, « En fait, le royaume de Dieu est là au milieu de vous, présentement, à l'heure où on se parle. » Mais les pharisiens n'avaient absolument pas rien vu. Ils ne voyaient pas le royaume de Dieu alors qu'il était là. Donc, le royaume de Dieu ne venait pas, c'est ce que Jésus a enseigné, de manière à frapper les regards. Et je crois qu'encore en 2009, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et comme la semaine dernière, je vous ai dit, je vous soumets le fait que l'œuvre du Saint-Esprit est la plupart du temps très discrète, mais très présente dans nos vies. On a vu la semaine dernière dans Galates, chapitre 5, ce que l'apôtre Paul disait aux gens de Galates en disant « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et évidemment, l'apôtre Paul ne parlait pas de marcher physiquement, mais parlait plutôt d'obéir au Saint-Esprit, d'accomplir ce que le Saint-Esprit demandait, de faire ce que l'Esprit de Dieu dit de faire. Et on a vu aussi que Job disait, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, on n'y prend pas garde. » Et on a vu que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on sait que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et on pourrait juste simplement l'adapter en disant, « Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière en 2009. » Tantôt d'une autre. Cependant, on n'y prend pas garde. Ça ne vient pas toujours de manière à frapper les regards. Et comme si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous encourage à aller sur le site Internet et télécharger le message ou aller à la table et vous procurer ce message. C'est tellement un message important, un contenu important, que le Saint-Esprit nous parle. Et la plupart du temps, il nous parle à l'intérieur. Parfois, il nous parle par vision, songe, rêve, toutes sortes de choses. Mais la plupart du temps, il nous parle à l'intérieur. Et il faut être attentif et faire ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Et j'ai partagé la semaine dernière, suite au début de mon message, j'ai dit, j'ai quelques appréhensions du fait de déclarer publiquement que le Saint-Esprit parle, que Dieu parle encore en 2009. Et je vous ai fait part du fait que j'avais quelques craintes ou appréhensions parce que j'avais vu, j'avais entendu bon nombre de personnes me dire, ou j'avais entendu dire des gens qui disaient que « Ah, Dieu m'a dit » ou « Le Saint-Esprit m'a montré » ou « Dieu m'a montré ». Et alors que ces gens-là mettent en application ce que Dieu leur a supposément montré, ça devient un cafouillis total. Et finalement, on se rend compte à quel point Dieu n'était pas du tout dans tout ça. Mais les gens pensaient vraiment que leur pensée était celle de Dieu. Et je me dis, « Oh Seigneur, garde-nous à l'Église abondante de prendre nos pensées pour celles de Dieu. » Et je vous ai dit un principe que j'ai appris dans la vie chrétienne. Quand le Saint-Esprit dit vraiment quelque chose et que nous obéissons, ça marche. Le Saint-Esprit, je vous ai offert un encadrement pour ces révélations du Saint-Esprit. Et j'ai dit, voici quelques conseils, quelques principes ou leçons que j'ai apprises et que je vous ai partagées. Le Saint-Esprit ne vient pas toujours à nous de façon à attirer les regards. Mais parfois, c'est à l'intérieur, dans une situation particulière. Notre chair veut agir d'une certaine façon, mais l'Esprit de Dieu nous indique une autre et nous incite à aller dans une autre direction et on a un choix à faire. Est-ce que je vais me venger? Est-ce que je vais garder plein d'amertume dans mon cœur? Ou est-ce que je vais pardonner et relâcher la personne? C'est un exemple qu'on a donné. Un autre principe qu'on a vu, c'était que le Saint-Esprit est une personne. Il a une personnalité. Et tout comme pour ceux et celles qui sont mariés depuis quelques années, vous avez appris à connaître votre épouse ou votre époux et vous connaissez sa personnalité au point que vous êtes capable de savoir ce qu'elle pense avant même qu'elle ne le dise devant une situation quelconque. N'est-ce pas? Il y a une complicité qui s'installe parce que vous avez appris à connaître votre conjoint. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il vient un temps où on commence à comprendre quelle est sa pensée, comment il pense, comment il dirige des choses, quelle est sa sagesse, quels sont ses principes. Et à un moment donné, on peut des fois entendre quelqu'un dire « Ah, Dieu m'a dit », puis il nous fait part de sa révélation. On est capable de discerner « Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas dans sa personnalité. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Ce n'est pas comme ça que l'Esprit de Dieu s'y prend. » L'Esprit de Dieu a une personnalité. On a vu aussi que le Saint-Esprit est digne de confiance, que lorsqu'il nous donne une directive et qu'on sait que c'est lui qui nous a parlé, même si ça nous demande de faire un pas de foi, si c'est vraiment lui qui nous parle, on peut lui faire confiance. Le Saint-Esprit est digne de confiance. On a vu aussi que le Saint-Esprit se révèle là où il est vraiment désiré et invité. Et le dernier principe que je vous ai partagé, on a pris un volontaire forcé la semaine dernière pour illustrer un autre principe qui est de ne pas s'attendre à d'autres directives de la part du Saint-Esprit. Si à un moment donné, on a refusé, on a dit non, puis on a boqué en bon québécois à un certain moment donné. Le Saint-Esprit va nous ramener constamment vers là. Un bon exemple dans la vie de tous les jours, c'est justement au niveau du pardon. Lorsqu'il arrive un événement et que le Saint-Esprit, on a un choix à faire entre être amer, ne pas pardonner, ou alors que l'Esprit de Dieu nous dit de pardonner, il nous incite à pardonner et à relâcher la personne. Et souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont essayer de continuer leur chemin et éviter de prendre la décision. Ils n'iront pas pardonner, ils vont garder l'amertume, mais le Saint-Esprit les a avertis. Il dit, les inciter à aller vers le pardon pour que vous soyez libérés. Ce n'est pas pour libérer l'autre personne, c'est pour que vous soyez libérés. Tout ce que l'Esprit de Dieu nous donne est bon, il est digne de confiance. Et on peut lui faire vraiment confiance lorsqu'il nous donne une directive. Il y a des gens qui veulent garder leur amertume et leur rancune alors que l'Esprit leur a montré ça, et ça amène toutes sortes de blocages dans leur vie spirituelle. Ils commencent à se poser toutes sortes de questions. T'es où, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi si? Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi si? Il vient des temps, frères et sœurs, où il faut juste dire, est-ce qu'il y a eu un temps, où est-ce qu'il y a quelque chose que je retiens dans mon âme? Et je sais que l'Esprit de Dieu me donne une directive, mais je résiste et je retiens. Ce sont les principes qu'on a vus ensemble la semaine dernière, mais là, ici, je fais un résumé. Et on a terminé notre message avec Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8, qui dit, « Aujourd'hui, bien, voici selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Suite au message de la semaine dernière, quelqu'un de l'Église Vie Abondante m'a témoigné comment le Saint-Esprit l'avait incité à faire quelque chose. Et cette personne m'a permis de vous lire ce qui suit. Je désire partager avec toi ce que l'Éternel a fait dernièrement, car il a fait de grandes choses pour moi. Depuis au moins un an, je demandais au Seigneur de me montrer les péchés que j'avais dans ma vie et qui devaient être abandonnés. À l'automne passé, le Seigneur m'a montré un péché que je pratiquais, qui me détruisait personnellement et qui nuisait à ma relation de couple. Et le Seigneur me demandait de confesser mon péché à lui premièrement et ensuite à mon conjoint. Je n'ai pas obéi tout de suite parce que ce que je voulais essayer de régler, je voulais essayer de régler les choses par mes propres efforts, mais pour finalement réaliser que je n'y arrivais pas. Je désirais régler mes affaires et ensuite le dire à mon conjoint parce que je craignais sa réaction. D'ailleurs, l'ennemi était très bon pour amplifier ma peur que j'entretenais face aux conséquences que ça pourrait occasionner à mon couple. Depuis ce temps, le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises, par des messages, des exhortations indirectes, par mes lectures et à travers un petit groupe. Le péché que j'entretenais m'entraînait à faire un autre péché, et encore un autre péché. Il y a environ un mois, je ne pouvais plus résister au fait que le Seigneur me demandait de confesser mon péché. J'ai donc tout avoué, premièrement au Seigneur et ensuite à mon conjoint. Je tremblais, je pleurais, mais je n'étais plus capable de marcher dans la désobéissance. Par cette expérience, le Seigneur m'a démontré à quel point il m'aimait. Il m'a dévoilé d'où venaient les souffrances qui m'amenaient à pécher de la sorte et à m'autodétruire graduellement. Il est venu panser d'anciennes blessures liées à mon enfance. Il m'a pardonné et il est en train de me restaurer et de me remplir de sa tendresse. Il a même préparé mon conjoint à m'accueillir comme le Seigneur l'aurait fait lui-même. C'est-à-dire qu'il m'a pardonné et il m'aime davantage maintenant. Depuis ce jour, je me sens libre et le Seigneur ne cesse de me bénir de toutes sortes de façons. Je veux toujours lui plaire par le biais de l'obéissance. Il est plus présent que jamais dans ma vie de tous les jours. Je rends grâce au Seigneur de me faire grandir à travers l'Église Vie Abondante. L'Eva porte bien son nom. J'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, si vous entendez la voix du Saint-Esprit dernièrement, ou si vous l'entendez ce matin, vous parlez très clairement, n'endurcissez pas votre cœur et votre oreille, mais soyez prompt à obéir, rapide sur la gâchette à obéir à ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Même si ça peut sembler difficile, comme le témoignage qu'on vient de lire, de votre obéissance peut découler toute une aventure spirituelle. Alléluia. Qu'on puisse entendre la voix du Saint-Esprit et être obéissant. Ce matin, on continue notre série. Et j'aimerais aborder la question du baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, l'Eva, l'Église Vie Abondante, fait partie de la grande famille d'Églises qu'on appelle les églises protestantes évangéliques. Pas évangélistes, mais évangéliques. Pour ceux et celles qui, des fois, entendent parler des chrétiens évangéliques dans les médias, la plupart du temps, ils nous appellent les chrétiens évangélistes. Et puis, ça m'a toujours irrité, mais un jour, je crois que c'est vraiment l'Esprit qui m'a dit une pensée très simple. Il m'a dit, dans mon intérieur, ça me disait, la journée que les médias vont changer, ils vont commencer à vous appeler des chrétiens évangéliques, c'est que quelque chose va s'être passé et que vous allez avoir gagné quelque chose du terrain. Vous me suivez? Tant qu'on nous appelle des évangélistes, c'est juste qu'ils ne nous connaissent pas. Mais la journée qu'ils vont commencer à nous appeler des chrétiens évangéliques, on va savoir qu'on a gagné du terrain. Les médias savent qui on est maintenant. Donc, nous sommes de la famille des églises protestantes pentecôtistes évangéliques. Et vraiment plus spécifiquement, effectivement, des pentecôtistes. Et qu'est-ce que ça veut dire, des pentecôtistes? Non, ça ne veut pas dire qu'on est des gens instables qui vivons dans des pentes et des côtes et toutes ces choses-là. Ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que nous croyons, en tant que pentecôtistes, que ce que les disciples de Jésus ont vécu au premier siècle peut être encore vécu aujourd'hui, en 2009. Et que ce n'est pas du tout relégué aux oubliettes, mais que c'est pour nous encore aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire « Amen ». En tant que pentecôtistes, d'où vient cette appellation-là ou qu'est-ce que nous sommes exactement? C'est qu'on croit toujours aussi que les dons de l'Esprit, que l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, particulièrement dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, c'est encore une réalité pour nous aujourd'hui, que ça n'a pas cessé avec l'Église primitive, mais encore aujourd'hui, on peut expérimenter ces dons spirituels dans nos vies et que ce n'est pas limité aux pasteurs, mais c'est que chaque croyant qui est un enfant de Dieu peut expérimenter ces dons selon ce que l'Esprit de Dieu leur communique. D'un point de vue historique, frères et sœurs, l'origine du pentecôtisme, on pourrait dire, vient du livre des Actes, dans la parole. Mais d'un point de vue historique, vraiment, la vérité du baptême du Saint-Esprit a surgi au début du siècle dernier, en 1906, a ressurgi, je devrais dire, en Californie, à Azusa Street. Et on va voir un petit peu plus loin c'est quoi exactement cette vérité biblique. Et ce qui est particulier avec ce mouvement de l'Esprit, c'est qu'en 1906, en Californie, à Azusa Street, il y avait un groupe de personnes qui cherchaient à vraiment expérimenter la présence de Dieu, la puissance. Il y avait vraiment une recherche intensive de la présence de Dieu. Et puis, ils ont réalisé ce qu'on va voir ce matin. Et à partir de cette réalisation, ils ont commencé à demander au Seigneur d'expérimenter ce qu'ils venaient de découvrir dans la parole de Dieu qu'on va voir ce matin. Et à partir de ce moment-là, ils ont été visités par l'Esprit de Dieu en 1906. Et à partir de ce moment-là, à partir de la Californie, ce mouvement de l'Esprit s'est répandu à travers le monde entier. En 100 ans. Est-ce que vous saviez que le pentecôtisme est le seul mouvement religieux qui a rassemblé au cours d'un siècle plus de 500 millions de fidèles à travers le monde? Certaines personnes ont fait remarquer qu'en 2109, c'est-à-dire dans 100 ans d'ici, les historiens vont dire de nous qui vivions en 2009 qu'on a vécu un des moments de l'histoire, un des moments de réveil spirituel les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité, à l'heure où on se parle. Imaginez, plus de 500 millions de personnes ont expérimenté ou du moins adhèrent à la doctrine pentecôtiste qu'on va voir dans quelques instants, en 100 ans seulement. 100 ans. Et ça, les données que j'ai ici datent de 2000, juin 2000, par le International Bulletin of Missionary Research. Et puis, on sait maintenant que les gens pentecôtisants, la grande famille pentecôtiste, on est autour de 600 millions présentement sur la Terre. Ça fait du monde. La réalité, c'est qu'on est dans une bulle au Québec et qu'on ne s'en rend pas compte. On est environ 28-30 000 chrétiens pentecôtistes au Québec, je crois, selon les dernières statistiques. Maintenant, quelle est cette croyance particulière du baptême du Saint-Esprit que les pentecôtistes expérimentent à travers le monde et chez Restant? C'est justement l'objectif de mon message ce matin, de clarifier ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et pour bien comprendre ce que c'est, on va devoir consulter plusieurs textes du Nouveau Testament. Ça vous va? On fait un deal? Et pour gagner du temps, on va utiliser la technologie. Pour ne pas sortir d'ici à 3 heures. Et on va lire les différents textes bibliques à l'écran. Et si vous n'avez pas le temps de tout prendre en note, pour ceux qui prennent des notes, comme on l'a dit plus tôt, vous pourrez aller sur le site Internet au www.églisesvieabondantes.com. Vous pouvez cliquer sur Zone membre, Eva, et vous allez pouvoir y télécharger le message. Et donc, ce matin, je vais commencer ce message. Et celui qui va. Je vais en suivre, je vais en avoir un deuxième. Comme je l'ai dit, dimanche prochain, je ne suis pas là, mais je vais apporter un deuxième message dimanche, dans 2 semaines. Le 14. C'est ça, hein? Le 14. Donc, 2 messages, parce que je ne suis pas capable de tout couvrir ce matin. Mais on va quand même couvrir l'essentiel. Par la suite, je sais que ça va assurément susciter toutes sortes de réactions, de questionnements. Je pense vraiment qu'il va y avoir toutes sortes de questions ce matin qui vont surgir dans votre esprit. Pour d'autres, ça va être des remises en question. Et ce matin, je prie que, pas juste ce matin, mais que dans notre vie, que pendant toute notre vie, que ce livre soit ce qui dicte nos croyances. Pas ce que l'Église abondante a écrit dans sa constitution, mais ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et qu'on ne peut jamais mettre nos croyances comme étant plus importantes que ça. Si c'est contradictoire à la parole de Dieu, il y aurait peut-être lieu de reconsidérer ce qu'on croit. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on est élevé dans certaines églises, peu importe d'où vous venez du milieu catholique ou d'une autre famille, de la famille évangélique, on vous a enseigné certaines choses. Et puis, les gens vous ont enseigné ce qu'ils croyaient. Maintenant, ce matin, moi, je vais vous partager ce que je crois, ce que nous croyons en tant que pentecôtistes. Et ça va être à vous à faire la part des choses. Ça va peut-être, comme j'ai dit, susciter des questions et des remises en question. Mais ça, vous allez devoir dealer avec ça avec le Seigneur. Et c'est lui qui va devoir répondre à vos questions et qui va devoir vous apaiser dans vos remises en question. On se met d'accord là-dessus? Donc, prenons le temps de regarder ce que la parole nous enseigne au sujet du baptême du Saint-Esprit. On vient de voir le point de vue historique. C'est une réalité qui est expérimentée à travers le monde. C'est un phénomène que les historiens disent, c'est un phénomène spirituel que le pentecôtisme. Donc, maintenant, on va voir le point de vue biblique. Et on va commencer dans le Nouveau Testament. On ne commencera pas à la création, sinon ça aurait été vraiment long. Mais on va commencer dans le Nouveau Testament avec le dernier prophète de l'Ancien Testament, à savoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était un prophète qui se tenait dans les déserts et qui prêchait le message de Dieu. En fait, son message était un message de repentance. Il invitait les gens à se repentir de leurs péchés, à changer leur façon de penser, à vraiment commencer à vivre une vie qui plaise à Dieu. Non seulement il annonçait la repentance, qu'il baptisait les gens dans l'eau, mais dans son message, ce qu'il communiquait aux gens, c'était « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance des péchés, mais il y en a un autre qui vient après moi et lui vient pour vous baptiser du Saint-Esprit. » C'est ce que Jean-Baptiste prêchait, ce qu'il enseignait. Et on voit dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 auteurs des évangiles ont rapporté les propos de Jean-Baptiste et l'enseignement de Jean-Baptiste qui disait « Moi, je viens vous baptiser d'eau, Mais celui qui vient après moi est encore plus grand que moi, puis lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Matthieu l'a rapporté, dans Marc ça nous est rapporté, dans Luc ça nous est rapporté, comme on va le voir. Et juste que vous compreniez ici un point important. Lorsque un point revient dans les quatre évangiles, que les quatre évangiles prennent la peine de nous apporter, de nous soulever ou faire émerger un point, c'est que le point est important. Vous me suivez? Tout le monde dans les quatre, lorsqu'ils ont écrit leur évangile, se sont dit « ça, c'est un point important. On ne peut pas passer à côté de ce point-là. » Donc, les quatre l'ont mis. On peut lire dans Matthieu 3, 11 « Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Marc 1, 8, on peut lire « Moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau. » Mais lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc 3, 16, Jean-Baptiste leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans Jean 1, 33, c'est Jean-Baptiste qui parle, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est-à-dire Dieu lui-même, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Wow! Dans les quatre évangiles, nous rapportent les propos que Jésus était pour baptiser du Saint-Esprit. Vous savez, le mot « baptiser » en grec, c'est vraiment un mot qu'en grec, on dit « baptizo ». Et puis, il y avait deux termes pour parler de l'aspect de... En fait, un terme français équivalent à baptiser, ce serait tremper. Vous savez, on baptise d'eau ici à l'Église Vie Abondante, selon ce que Jésus nous a demandé, on baptise dans l'eau, on ne fait pas juste mettre quelques gouttes, on trempe, on immerge, et comme je dis souvent à la blague aux gens avant la réunion de baptême, je leur dis, tant qu'il y a des bulles, on ne remonte pas. C'est vraiment tremper, c'est vraiment immerger, la question d'immerger. Mais dans le premier siècle, et même avant le premier siècle, dans le grec, on utilisait le mot baptême, ce n'était pas un terme religieux, c'est un terme qui était utilisé dans le domaine séculier. Entre autres, il y avait un physicien et un poète grec du nom de Nicandre, 200 ans avant Jésus-Christ, qui a utilisé le mot baptizo dans une recette pour faire des conserves au vinaigre pour les femmes. Donc, une recette de conserve au vinaigre. Et Nicandre disait ceci. Dans sa recette, il disait « Le légume doit d'abord être plongé, bapto, qui n'est pas baptizo, qui doit être plongé dans de l'eau bouillante. Puis, par la suite, il doit être immergé, baptizo, dans le vinaigre. » Les deux verbes concernent donc une immersion, mais le premier est temporaire et bref, mais le second est une action de longue durée considérée comme définitive. Un autre terme, on utilisait aussi le terme « baptizo », quand on dit que Jésus va baptiser du Saint-Esprit, c'est le mot « baptizo ». Et on utilisait ce mot « baptizo » dans le domaine de la teinturerie. On prenait les tissus, les vêtements, et on les mettait à tremper afin que la teinture puisse l'imprégner, que la couleur puisse s'imprégner dans le tissu. Et lorsque les gens utilisaient le mot « baptizo », c'était vraiment cette idée qu'il y avait d'être trempé, d'être immergé, d'être imprégné de quelque chose, d'être imprégné du vinaigre, ou d'être imprégné de la teinture, et c'est cette idée-là, de façon définitive. Et c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Lorsque Christ nous baptise dans l'Esprit, nous nous imprégnons de la couleur, de la nature de l'Esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Baptiste était un homme particulier, pas seulement à cause de ses vêtements et de ce qu'il mangeait, mais c'était vraiment un prophète particulier. C'est lui qui a ouvert la voie devant Christ. Et c'est lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, dans l'Évangile de Jean, ça nous dit que lorsqu'il a vu Jésus passer, il a dit, « Voici l'agneau du monde qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et là, à ce moment-là, il y a deux de ses disciples qui ont entendu Jean-Baptiste dire ça. Et les deux disciples, quand ils ont entendu Jean-Baptiste, leur maître, dire ça, ils ont décidé de quitter Jean-Baptiste pour commencer à suivre Jésus. Quelque temps plus tard, Jean-Baptiste se fait arrêter et se met en prison. Et alors qu'il est en prison, il envoie deux de ses disciples vers Jésus avec la question suivante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette question-là m'a toujours laissé perplexe. J'avais tendance à dire, Voyons, Jean-Baptiste, réveille. Tu le savais, c'est toi qui l'as prêché, c'est toi qui l'as même déclaré devant tout le monde. Non, mais il y a quelque chose, là. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste, il n'a pas perdu la carte, là. Il y a quelque chose qui tracassait Jean-Baptiste. C'était quoi qui tracassait Jean-Baptiste? C'est quoi qui tracassait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait reçu un message de la part de Dieu qui était celui-ci. « Moi, je suis appelé à vous baptiser d'eau, mais il en vient un après moi qui est plus grand que moi, que je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses souliers, je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Puis lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. » Et Jean-Baptiste envoie ses disciples et dit « Est-ce que c'est toi qui dois venir ou on doit en attendre un autre? » Savez-vous pourquoi Jean-Baptiste, je crois, envoyer ces gens-là? C'est que Jésus ne baptisait pas du Saint-Esprit dans son ministère. Guérissait les malades, délivrait les gens de la prise démoniaque, mais il ne baptisait pas du Saint-Esprit. Et c'est le message que Jean-Baptiste avait reçu de la part de Dieu. Celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, que l'Esprit va descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et quelque temps, les mois passent, et il n'y a rien qui se passe par rapport au message que Dieu lui avait donné. Et finalement, Jésus va répondre aux disciples, voyez tout ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Et retournez ça, cette réponse-là, à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait un point, là. Il s'attendait à ce que le Messie, celui qui était pour le suivre, était pour baptiser du Saint-Esprit. Après le ministère de Jean-Baptiste, Jésus a complété son ministère. Finalement, comme on l'a chanté ce matin, il a été crucifié sur une croix et on l'a mis au tombeau par la suite. Mais comme vous le savez déjà, Christ est ressuscité d'entre les morts. Toutefois, il y a bien des gens qui ne croyaient pas à ça. Des femmes sont venues avertir les disciples et ont dit aux disciples, « on l'a vu Jésus vivant, il est ressuscité, on y a parlé, on l'a vu. » Les disciples ne voulaient pas le croire. D'autres disciples l'ont vu sur un chemin qui s'en allait vers la campagne. Et ils reviennent pour dire, on l'a vu, on a parlé avec lui, on a discuté avec lui. Les disciples ne voulaient pas le croire. Mais un soir, alors que les disciples étaient réunis ensemble, ils ont eu droit à une visite à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et que ça a dû être spécial. Hein? Il s'était fait dire, « Il est ressuscité, on l'a vu! » Puis les disciples ne voulaient pas croire. Ils étaient enfermés, les portes étaient barrées, ils avaient peur des Juifs, ils ne savaient plus quoi penser. Et tout d'un coup, Jésus se présente là, en personne. Ils le voient. Et ça continue en disant, Quand il lui dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Imaginez la scène. Jésus montre ses mains qui avaient été percées avec les clous, son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Rappelez-vous, Jésus avait expliqué à ses disciples qu'il leur était avantageux qu'ils s'en aillent parce que le Saint-Esprit était pour venir à sa place. Et là, il leur dit ces paroles-là, « Recevez le Saint-Esprit. » Que s'est-il passé, selon vous, à ce moment précis? Ont-ils reçu l'Esprit ou non? Si Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit », est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit ou ils ne l'ont pas reçu? Vous avez une décision à prendre, drette là. Ils l'ont reçu. Vous êtes certain? Vous êtes sûr que ce n'est pas juste un symbole, un signe, ou juste un symbole, une façon de parler? Parce que s'ils ont vraiment reçu l'Esprit, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Nouvelle naissance. Quant à moi, je crois que les disciples sont nés de nouveau à ce moment précis. Bien qu'ils ont côtoyé, qu'ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, autour de 3 ans avec Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau parce que Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts. La nouvelle naissance n'était pas accessible. C'était une expérience qui n'était pas accessible. Mais là, même alors que Jésus était ressuscité, tant qu'ils ne le croyaient pas, la nouvelle naissance ne pouvait pas prendre place. Mais là, tout d'un coup, Jésus se présente. Il dit, regardez. Regardez mon côté. Il leur a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Tout d'un coup, tous les éléments étaient en place afin qu'ils puissent expérimenter la nouvelle naissance. Ils ne pouvaient pas naître de nouveau tant que Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts. Selon vous, à quel moment les disciples sont nés de nouveau? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas nés de nouveau à ce moment-là. Si vous ne croyez pas qu'ils sont nés de nouveau à ce moment-là, écoutez bien ceci. Ils ont passé les 40 prochains jours à parler avec Jésus ressuscité, et pendant plus d'un mois, Jésus leur a expliqué tout ce qui concernait les choses du royaume. Est-il possible que les disciples aient fréquenté Jésus ressuscité pendant 40 jours sans jamais naître de nouveau? Lisons ensemble le prochain passage qui rapporte que pendant plus de 5 semaines, les disciples ont eu l'immense, l'extraordinaire, l'indescriptible privilège de discuter avec Jésus sur les choses du royaume. Alors qu'il avait les pieds percés, alors qu'il avait les mains percées, alors qu'il avait son côté percé. Et ça, c'est le centre même. Si vous êtes ici pour la première fois ce matin, c'est le cœur même du christianisme, que Jésus n'est plus au tombeau. Prenez n'importe quelle autre religion dans ce monde. Prenez peu importe le personnage principal de ces religions-là, vous allez toutes les retrouver dans leur tombeau, mais Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qui fait du christianisme vraiment quelque chose de complètement différent. C'est que le personnage principal de cette religion est vraiment en vie, il est vraiment vivant, et il est assis à la droite du Père. Mais lisons ensemble ce qu'on peut lire au début du livre des Actes. Ça dit, après que Jésus eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme ils se trouvaient avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit Jésus. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, on revient à ça, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez ou vous serez baptisés du Saint-Esprit. Comprenez bien ceci. Ce texte nous indique que Jésus lui-même a annoncé que les gens seraient baptisés dans le Saint-Esprit. Et par la suite, il va continuer dans le même passage de Actes 1, versets 8 et 9. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Après avoir passé 40 jours avec eux, Jésus leur dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce baptême du Saint-Esprit. Imaginez-vous, après 40 jours, pour la dernière fois, Jésus leur sourit et il commence à s'élever vers le ciel. Et tout à coup, un nuage vient le chercher et Christ n'est plus là. Ça nous dit, juste après, dans la Bible, version sommaire, les disciples gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, Jésus. Quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Wow! Jésus va revenir un jour, de la même manière qu'il est monté au ciel. Dans Actes 1, verset 12, quand on continue, ça dit, « Alors les disciples retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. » Imaginez-vous la scène, frères et sœurs. Sérieusement, après s'être remis de leurs émotions, ou du moins en partie, les disciples décident de retourner à Jérusalem, mais cette fois-ci, sans Jésus. J'ai l'impression que les disciples ont dû vivre une expérience du genre, permettez-moi une image pour comprendre en 2009. Elle est très pâle à comparer de ce qu'ils ont vécu, mais quand même, ça va vous donner un aperçu. J'imagine qu'ils ont vécu un petit peu l'expérience que nous vivons lorsque nous allons au Cinéplex Odéon à Duplessis et que nous allons voir un film qu'on attendait tant. Et là, après qu'on l'ait visionné, qu'on sort du cinéma, c'est le soir, et on est encore un peu sous l'effet du film. Ça vous arrive-tu ou vous êtes trop SS? Et là, vous sortez, vous êtes encore sous l'effet du film, et la fin a été particulière, et là, il y a des questionnements, puis la fin n'était pas à votre goût, là, puis elle aurait dû terminer d'une autre façon. Le réalisateur aurait dû faire ça différemment. Là, vous restez avec toutes sortes de questionnements, puis là, vous êtes encore là, puis vous avez encore les émotions qui sont présentes. Je pense que c'est juste une... On peut mieux comprendre ce que les disciples ont vécu. Alors que ils étaient en train de revenir vers Jérusalem avec tous ces sentiments-là, puis venaient de voir deux anges qui leur ont parlé, Jésus qui s'est élevé, alors qu'il parlait avec Jésus, à un moment donné, Jésus commence à s'élever, puis un nuage le prend. Il devait revenir à Jérusalem, puis il devait avoir toutes sortes de réactions. Il devait être sous l'effet du film, sous l'effet de ce qu'il venait d'expérimenter. Et alors qu'ils étaient en train de se diriger vers Jérusalem et marcher, et je peux imaginer un petit peu ce qui se passait comme à l'intérieur. Et alors qu'ils marchaient, ils ont peut-être passé à ce point où que Jésus avait prononcé certaines paroles quelques jours plus tôt, il l'avait dit, quelques semaines plus tôt, il avait dit, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tue à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule le fait avec ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. » Et que Jésus avait pleuré. Peut-être qu'il y a un disciple qui s'est tourné vers les autres, il vous a dit, « Hey les gars, est-ce que vous vous rappelez? Rappelez-vous les gars, c'est ce que Jésus a dit juste ici, alors qu'il était en train de faire son entrée vers Jérusalem et qu'il a pleuré, il arrivait à peine à contenir ses émotions et son affection et sa compassion pour Jérusalem. » Que de commentaires ont dû être émis. Que d'émotions ont dû être expérimentées et ressenties. Que de questionnements. Je peux imaginer les paroles des disciples. Je peux imaginer un disciple, entre autres, dire quelque chose du genre, « Qu'est-ce que Jésus nous réserve maintenant? » Il nous a dit que ça serait avantageux pour nous qu'il s'en aille et qu'on reçoive le Saint-Esprit. C'est fait. Jésus est parti. Et je ne vois vraiment pas ce qui pourrait être plus avantageux que le fait de marcher, de manger, de vivre et de discuter avec Jésus lui-même. En tout cas, les gars, on a eu raison de lui faire confiance jusqu'à maintenant. Allons-y. Allons à Jérusalem. Et attendons pour voir ce qui va se passer. Jésus semblait dire que quelque chose, une sorte de nouveau baptême, nous y attend. J'ai hâte de comprendre ce que c'est. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 13, 1, 13, verset 13. « Quand ils furent arrivés à Jérusalem, les disciples, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, la mère de Jésus était là, et elle sentait le besoin aussi d'obéir à ce que Jésus avait dit, d'aller et d'attendre la promesse du Père. Les frères de Jésus étaient là, oui, Jésus avait des frères. Et finalement, ils se ramassent dans cette salle-là, cette chambre haute-là, et ils persévèrent ensemble dans la prière. Ils attendaient ce que Jésus avait promis. Et 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, aujourd'hui c'est le dimanche de la Pentecôte, on peut lire ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, violent. Le vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Finalement, les disciples ont expérimenté ce que Jésus leur avait annoncé, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Et en tant que pentecôtistes, nous croyons toujours que cette expérience-là est pour nous aujourd'hui. C'est la première fois, on vient de lire la première fois, la version originale, la première expérience de ce que Jésus avait promis. C'était l'expérience originale. Et j'aimerais même dire, quant à moi, que c'est le standard. C'est ce que Jésus a dit, a promis à ses disciples, « Voici ce que vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Et je crois que c'est le standard, c'est la version originale. J'aimerais vous poser une question, frères et sœurs. Quel est le signe ou l'évidence extérieure qui a attiré la multitude et qui a fait en sorte que quelques minutes plus tard, suite à ces événements-là, 3000 âmes se sont converties, se sont repenties de leurs péchés et qui se sont fait baptiser? Quel était ce signe extérieur? Les langues. Rappelez-vous, c'est l'expérience originale. Rappelez-vous toujours ça. C'est le standard, quant à moi. La promesse, d'où le titre de mon message ce matin, de Jésus venait de s'accomplir. Jésus avait promis le baptême du Saint-Esprit et il venait d'accomplir ce qu'il avait promis. Et je crois qu'encore en 2009, cette expérience demeure et demeurera toujours le standard. Nous ne sommes pas, et je prie qu'on ne puisse jamais accepter qu'on soit des chrétiens, tout simplement qu'on n'a plus droit, on n'a plus accès à ces choses-là. Nous ne sommes pas des chrétiens aujourd'hui en 2009 qui n'avons plus besoin de la puissance de Dieu. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi pour dire que nous sommes des chrétiens qui avons désespérément besoin de la puissance, de la présence de Dieu et de l'Esprit dans nos vies? On n'a pas moins besoin du Saint-Esprit en 2009 qu'ils en avaient besoin au premier siècle. On en a tout aussi besoin. Je refuse, pour ma part, d'accepter une vie chrétienne de second niveau. C'est-à-dire que lorsque je regarde aux disciples, dire, eux autres, ils ont vécu ça, puis moi, je n'ai pas le droit de vivre ça. Que c'était juste pour eux, puis moi, alors que je ressens tellement le besoin de vivre ça et d'avoir ça aussi, pour être un témoin et d'être un bon serviteur efficace, je n'aurais pas accès à ça. Moi, je refuse personnellement de lire des promesses dans les Écritures qui semblent être pour nous et que parce que je ne l'expérimente pas dans ma vie, je les abandonne et je les mets de côté. Moi, je suis de ceux qui déclarent « Je veux tout ce que Dieu a pour moi. » Si Jean-Baptiste a dit que Jésus baptiserait du Saint-Esprit et de feu, alors je veux que mon Jésus et mon Sauveur et mon Maître me baptisent du Saint-Esprit et de feu. Si Jésus a promis que son Père nous baptiserait du Saint-Esprit et de feu, alors je désire l'expérimenter et je ne lâcherai pas prise tant que je ne l'aurai pas expérimenté. Pendant 10 jours, les disciples ont attendu. Ils ont persévéré dans la prière pour finalement expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Non pas qu'ils devaient chercher à gagner le baptême du Saint-Esprit par ces 10 jours d'attente-là, mais il faut croire que Dieu savait ce qu'il faisait en faisant en sorte que le baptême du Saint-Esprit prenne place le jour de la Pentecôte. Je ne crois pas que c'est arrivé le jour de Pentecôte, parce qu'au jour de la Pentecôte, après 10 jours, ils avaient assez accumulé de « hair miles », de « heaven miles » pour être capables de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je crois que le baptême du Saint-Esprit est un don que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous fait la grâce d'expérimenter et de recevoir. Amen. Alléluia. J'aimerais ce matin qu'on puisse prendre le temps de prier pour le baptême du Saint-Esprit, que vous puissiez recevoir, pour ceux et celles qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais inviter les musiciennes à me rejoindre. Vous savez, à la conversion, on accepte Christ dans notre vie, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais lorsque Jean-Baptiste disait « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui va venir après moi, il va vous baptiser, va vous baptiser dans l'eau, par le Saint-Esprit, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, c'est-à-dire il va vous immerger complètement. » C'est une image qui était là, c'est quelque chose de permanent. La conversion est une chose. Et les disciples, quant à moi, je suis convaincu qu'ils sont nés de nouveau. Lorsque Jésus est arrivé pour la première fois dans la chambre et qu'il a dit « Recevez le Saint-Esprit », qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et après ça, ils ont passé 40 jours avec Jésus, ressuscité. Et je crois qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance, assurément, dans tout ce temps-là. Et par la suite, Jésus a dit « Attendez la promesse du Père ». Et le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient en train de prier, en train de chercher, ils ont simplement reçu le baptême du Saint-Esprit. Les langues sont venues sur chacun d'entre eux. Chacun n'a pas commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. et ils ont vraiment connu le baptême du Saint-Esprit. Ce que Jean-Baptiste avait annoncé, ce que Jésus lui-même avait annoncé, et ce que je crois qui est encore pour nous aujourd'hui. L'apôtre Pierre va dire, le jour de la Pentecôte, alors que tout le monde a commencé, la multitude a couru vers la chambre haute ou vers le lieu où ça se passait. La multitude est venue, puis là, ils se posaient toutes sortes de questions, des gens qui se moquaient, des gens qui pensaient que les disciples étaient sous, et tous les gens qui étaient là étaient sous, ivres de vin. Et l'apôtre Pierre a élevé la voix, et il a commencé à leur prêcher sur Jésus ressuscité, et que c'était ce que Joël, le prophète Joël avait annoncé, etc. Et à la fin de son message, il a dit, « Cette promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Et aussi, jusqu'au plus grand nombre, tant que le Seigneur va en appeler, la promesse est pour toutes les gens qui veulent l'avoir. » La Bible dit aussi, les gens, à la fin du discours de l'apôtre Pierre, ont dit ceci. Ils étaient touchés, puis ont dit, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir ça, ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on doit faire? » L'apôtre Pierre a dit, « Repentez-vous. Repentez-vous. » Je vais vous le lire. Repentez-vous dans Acte 2. Ça dit ceci. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quels sont ceux qui sont d'accord pour dire qu'on baptise seulement les convertis? Que la parole de Dieu nous enseigne que les gens qui doivent se faire baptiser dans l'eau, c'est des gens qui ont vraiment compris, qui veulent s'engager envers Christ, qui ont compris le salut, etc. On est d'accord là-dessus, là. C'est censé être ça. Et ça dit ici, repentez-vous, Pierre, il dit, les gens ont dit, après avoir entendu ce discours, les gens eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux au loin, qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse, etc. » Et après ça, on voit l'Église qui croit de façon extraordinaire. Ce matin, nous voulons prendre le temps de prier pour ceux et celles qui veulent avoir le baptême du Saint-Esprit, expérimenter ce don qui vient de Dieu. Je n'ai absolument rien à vous donner, mais l'Esprit de Dieu est là ce matin et il veut, lui, vous donner. Si vous croyez ce matin que c'est encore pour vous, si vous voulez expérimenter, que vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est votre matin ce matin. Je vous invite à vous avancer en quelques instants, mais avant, on va juste prendre le temps de fixer notre attention sur le Seigneur. Lui-même, et juste avec un chant. Et par la suite, je vais vous inviter à vous avancer. Je vais prier avec vous. L'équipe de leadership ministériel peut se joindre aussi à moi pour prier pour les gens. Et on fait simplement demander au Seigneur de venir visiter ces gens et qu'ils puissent connaître cette expérience et cette puissance surnaturelle qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Chantons le chant qui dit... Purifie mon cœur. Alléluia.
Seigneur, viens préparer nos cœurs.
Alléluia.
On veut recevoir de toi tout ce que tu as prévu pour tes enfants.
Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va vraiment fixer notre attention sur le Seigneur dans les prochains instants. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire la différence. Alléluia. Et on peut vraiment simplement lui dire, moi, je le veux. Là où vous êtes, même commencez simplement à élever vos cœurs devant le Seigneur et partagez votre cœur et semez des questions et des remises en question. Faites-en part au Seigneur lui-même. Comme je l'ai dit, ça se peut qu'il y ait toutes sortes de remises en question à l'intérieur. Et faites-en part au Seigneur. Alléluia. À ce moment-ci. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur.
Purifie mon cœur, Seigneur.
Oui, Seigneur, purifie nos cœurs, Seigneur. Alléluia, oui, purifie Jésus. Alléluia.
Purifie mon cœur. Fais entrer en moi, Seigneur, ta lumière. Fais entrer en moi ta lumière. Fais entrer en moi ta lumière.
fais entrer en moi la beauté de ta loi. Fais entrer en moi ta lumière. Fais entrer en moi ta lumière. Fais entrer en moi la beauté de ta loi. Fais entrer
oui,
en
Seigneur.
Moi ta puissance.
Alléluia.
Fais entrer
oh,
hallelujah. En moi ta puissance. Fais entrer en moi la beauté de ta loi.
Alléluia, Jésus. À ce moment-ci, ce que j'aimerais faire simplement, écoutez bien. À l'Église Vie Abondante, on s'est entendu sur une chose en ce qui a trait aux choses de l'Esprit. Nous ne voulons que juste du frais, juste du vrai. On ne veut pas d'artificiel, on ne veut pas du simulé. Ce qu'on veut, c'est simplement ce que Dieu a pour chacune de nos vies. Et alors que vous allez avancer en avant, qu'on va prier pour vous, on va s'attendre à Dieu, c'est Lui qui va le faire tout simplement. Si ce matin, vous n'êtes pas prêt et que vous êtes dans ceux et celles qui ont des remises en question et des choses, ça brasse dans votre cœur présentement et que ça va peut-être ça contredit ce qu'on vous a déjà enseigné, ça vient déranger votre théologie, prenez le temps d'étudier, de vous repencher sur ce qu'on a vu ce matin. Et chez vous, alors que vous allez être chez vous, prenez le temps de vous adresser au Seigneur et de dire, Seigneur, éclaire-moi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je dois croire ce qu'il est apporté? Je vois ce que Pasteur Benoît a enseigné. Seigneur, je veux simplement être à l'écoute de ton esprit. Je veux juste du frais, juste du vrai, juste ce qui vient de toi. Et si c'est pour moi, que ça puisse, que je puisse expérimenter. Ma propre mère était une femme qui venait d'une autre famille, une autre partie de la famille évangélique. Et on lui avait enseigné que ces choses n'étaient plus pour nous aujourd'hui. Et alors qu'on lui enseignait ça un jour, elle a commencé à lire le livre des Actes. Et elle a dit au Seigneur, « Seigneur, je sais ce qu'on m'enseigne, mais si ce que je lis là est pour moi aujourd'hui, je le veux. Si c'est vraiment toi qui as encore du baptême du Saint-Esprit, comme les disciples l'ont expérimenté, je le veux, peu importe ce qu'on m'a enseigné dans le passé. » Et savez-vous quoi? Le Saint-Esprit est venu la visiter chez elle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et les langues sont venues, et elle a connu, elle a été remplie du Saint-Esprit. Ce matin, c'est votre opportunité. Sans pression, et je prie que vous puissiez avoir simplement de venir à l'avant. S'il y a des gens aussi qui veulent vraiment simplement dire, Seigneur, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été touché dans ta présence, que j'ai besoin que tu viennes me remplir tout à nouveau, pas de revivre le baptême du Saint-Esprit, mais j'ai besoin que tu viennes à nouveau me remplir et que tu viennes vraiment me saisir. Avançons-nous aussi. Que le fait d'avancer ce matin, et je vous encourage à le faire ce matin, d'avancer comme un geste de foi et de dire, je viens m'emparer de cette promesse de Jésus lui-même, qu'il baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Avançons-nous maintenant, pendant que notre frère Simon nous dirige dans la louange, et on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. On va prier que Dieu puisse venir faire son œuvre ce matin en nous. Et attendez pas que votre voisin, que votre conjoint vienne. Si vous avez à cœur de venir, avancez-vous de chaque côté pour laisser la place à ceux qui veulent venir en avant. J'invite l'équipe de leadership ministériel à venir me rejoindre à l'avant, et on va commencer à prier. On va demander simplement que l'Esprit de Dieu puisse venir faire son œuvre ce matin. Vous savez, ce n'est pas nous qui allons faire en sorte que ça va prendre place dans votre vie. C'est votre recherche de Dieu dire, moi je le veux Seigneur, je le veux tout simplement. Et la parole de Dieu nous dit, on voit dans le livre des Actes, on va le voir dans 2 semaines, que par l'imposition des mains, souvent c'est comme ça que l'Esprit de Dieu venait sur les gens. Et on veut simplement expérimenter ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Chantons-le ensemble. Fais entrer en moi ta lumière.
Fais entrer en moi ta lumière
Seigneur.
Fais entrer en moi ta lumière.
Alléluia.
Fais entrer en
Alléluia,
moi
Seigneur.
La beauté de ta loi. Fais entrer en moi ta lumière. Fais entrer en moi ta lumière. Fais entrer en moi la beauté de ta loi. Viens remplir, viens.